En guise de commentaire, j'aimerais faire quelques remarques sur la chirurgie de réparation du clitoris comme instrument médical de libération des femmes excisées, comme on a pu l'entendre en particulier dans les présentations très intéressantes et riches de Béatrice Cuzin et de Sébastien Mazzou. Je reviendrai sur les deux autres présentations au cours de mon commentaire. Alors, le but de mes remarques, c'est de prendre un petit peu de distance critique par rapport à l'engouement pour cette chirurgie réparatrice. Non pas que je doute des bienfaits de cette chirurgie lorsqu'elle est désirée par les femmes concernées, mais, si vous voulez, par rapport à cet engouement, hein, on peut se poser en tout cas deux questions. Pourquoi cette solution chirurgicale est-elle privilégiée? Certes, comme une solution intérimaire, qui devrait devenir obsolète, donc avec l'éradication de l'excision. Et puis aussi, au fond, quel genre de solution est définie par cette chirurgie? Alors, là, je m'inspire beaucoup de travaux existants, notamment la thèse de Saïda Barkat, dont elle vous a présenté seulement un petit aspect, mais qui travaille sur cette question. Aussi, le travail de Dina Bader, qui est une collègue suisse, je fais un peu de pub pour ce petit pays, qui est ici aussi. Et les travaux aussi de Sarah Jonsdottir et de Brigitte Essen sur, hein, et ça c'est quelque chose qu'on voit au niveau des présentations et des articles, médicaux, une distinction qui est affirmée entre, d'une part, la chirurgie réparatrice du clitoris et puis hein, la chirurgie esthétique, bien que l'offre cosmétique inclut la réduction clitoridienne et pas simplement la nymphoplastie. Alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette distinction qui opère notamment sur une asymétrie de jugement sur la nature de l'altération génitale, mutilation versus amélioration, et cette asymétrie repose elle-même sur une opposition hiérarchique préalable entre les femmes de là-bas, parfois migrantes, coupées, mutilées, victimes, et les femmes d'ici, parfois opérées, mais jamais mutilées, autonomes, libres, etc. De nouveau, je vous renvoie à ces excellents travaux. C'est des points qui sont extrêmement importants, mais si cette distinction entre chirurgie réparatrice et chirurgie cosmétique est affirmée, hein, donc ça n'a rien à voir, les mêmes médecins revendiquent une continuité entre la technique chirurgicale de réparation du clitoris et la chirurgie dite correctrice, d'aucuns diraient normalisatrice, des organes génitaux qui ne sont pas typiquement masculins ou féminins. Ça, c'est quelque chose qui a aussi été abordé dans la littérature et comme vous le savez peut-être, des associations intersexes, la plus connue étant l'Intersex Society of North America, ISNA, a très tôt hein, essayé d'associer les chirurgies correctrices précoces non désirées à des mutilations génitales féminines et masculine, alors là vous me direz justement ça marche pas entièrement, mais disons quand même il y a eu cet effort de faire cette association là, ou en tout cas hein, d'interroger la séparation qu'il y avait entre ces deux pratiques. On peut lire dans les articles concernant cette chirurgie réparatrice que la chirurgie connue du clitoris est, je cite, essentiellement une chirurgie d'exérèse, en gros ça veut dire cutting, clitoridoplastie, féminisation, chirurgie de l'hypertrophie. Les auteurs continuent, ces techniques laissent subsister un gland, conservant son innervation et sa vascularisation. De nombreuses publications témoignent de la restauration sensorielle après cette chirurgie plastique. C'est ce que l'on constate pardon, avec cette technique donc, de réparation du clitoris, avec une réacquisition de la sensibilité superficielle au bout de quelques semaines. Alors, cette citation que j'ai tirée d'un article de Pierre Foldès paru en 2004, et on retrouve cette filiation explicite dans les articles auxquels a participé notamment Sébastien Mazou, doit être précisée. La chirurgie correctrice du clitoris chez les nouveau-nés intersexués, en particulier les filles avec des organes génitaux qui étaient jugés survirilisés, eh bien, il y a eu différentes techniques depuis les années 30 jusque dans les années 70. En tout cas, c'est la clitoridectomie. Il y a une nouvelle technique qui est censée améliorer les défauts de cette technique, les défauts évidents. C'est la récession clitoridienne qui a d'autres inconvénients, je n'entre pas dans les détails. Et puis à la fin des années 90, qu'est-ce qu'on a ? Des études de type anatomique sur le clitoris avec le développement de chirurgies qui respecteraient l'anatomie du clitoris, préserveraient son innervation et donc la sensibilité de l'organe. Je souligne juste que le timing pour ces chirurgies sur les enfants intersexués, le timing recommandé, c'est de 2 à 6 mois dans les guidelines médicaux. Alors on voit bien que cet état de fait complique et interroge l'évidence de distinguer clairement les femmes coupées, là-bas, migrantes ici, des femmes non coupées, ici, d'une part, et aussi la distinction entre les dites mutilations génitales et les corrections génitales qui sont faites ici de manière tout à fait standard et routinière. Alors une question qu'on pourrait poser, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser la technique de transposition du clitoris pour réparer les opérations sur des clitoris qui étaient jugés médicalement trop grands pour que l'enfant soit reconnu comme une vraie fille ? Alors je serais très intéressée par la discussion, mais disons, je donne quelques éléments de réponse. À mon avis, oui. Si l'on considère que les plaintes des personnes opérées pour un clitoris jugé trop grand sont très semblables à celles exprimées par les femmes excisées. C'est le cas, hein, et c'est là qu'on a quelque chose qui interroge, hein, c'est le cas même avec les nouvelles techniques chirurgicales qui sont censées préserver le pédicule vasculo-nerveux. Il y a du reste tout un débat pour comprendre cette énigme. Alors, les nouvelles techniques chirurgicales, elles respectent la sensibilité de l'organe, mais les personnes intersexes disent, se plaignent exactement des mêmes choses que les femmes qui sont excisées. Et puis, au contraire, avec la même technique, en termes d'évaluation de la chirurgie réparatrice du clitoris, ce qui est mis en évidence, c'est le succès et les bienfaits pour les personnes excisées. Alors, les deux peuvent être vrais, d'accord ? Les deux peuvent être vrais, mais pour en rendre compte, il faut sortir du cadre d'action et d'interprétation strictement médicale, à commencer par le génitocentrisme, ou, pour reprendre une expression de Sarah Jonsdottir, le déterminisme génital. En fait, la visée purement réparatrice, mais aussi les résultats de la réparation chirurgicale du clitoris, ne sont pas aussi évidents qu'on pourrait le penser, à commencer, et ça c'est très intéressant, de l'avis même des promoteurs et promotrices de ce genre d'opération. Alors, basé sur les articles, et on l'a entendu aussi dans le cadre des présentations, les femmes viennent pour 3 raisons principales, ou disons, elles viennent avec 3 demandes. La première qui concerne les douleurs, dans des rapports sexuels, mais pas seulement. La deuxième raison, c'est des problèmes sexuels, dysfonction sexuelle, si vous voulez, la terminologie technique, qui concerne la question du désir, la question de difficultés pendant le coït, et puis l'absence de plaisir ou un moindre plaisir et ou d'orgasme. Une troisième raison, c'est la restauration de l'identité féminine parce que, je cite de nouveau Pierre Foldès, l'excision prive la victime de son identité féminine intime et d'un organe essentiel à sa sexualité. Alors dans un autre article de Wilra Draogo et Mazou et collègues paru en 2013 qui rapporte 90 cas, le suivi de 94 patientes opérées au Burkina Faso. C'est une étude qui montre, et ça répond pour une part à une question de Yasmine Aboulkadir, il y a une augmentation du désir sexuel après la chirurgie, mais au niveau de l'orgasme, avant et après la chirurgie, en tout cas dans cette étude, il n'y a pas de différence significative. Alors je ne vais pas m'étendre sur ces liens, parfois controversés, entre l'excision et puis la sexualité, puisqu'il y a tout un panel, le panel 4 demain matin, qui est consacré à ces questions extrêmement intéressantes. Mais j'aimerais dire quelque chose sur l'importance de la restauration de l'identité féminine par la chirurgie. Dans les études de qu'on peut voir, enfin que les peu d'études que j'ai lues, mais de Foldes et puis de Mazou, 99% des demandes concerne justement la restauration de l'identité féminine avec une satisfaction maximale, hein, par rapport à la question des douleurs et de la sexualité. Et c'est une chose très intéressante, je cite un article de Wedragao et Mazou, « La chirurgie plastique du clitoris semblait répondre à une demande particulière de restauration de la féminité et le résultat esthétique ou fonctionnel obtenu paraît secondaire, car au-delà, c'est aussi la liberté reconquise qui importe. » Alors on retrouve l'idée que c'est la liberté qui est retrouvée à travers la chirurgie réparatrice, mais surtout que le lieu de cette liberté regagnée, c'est l'identité féminine, et que cette identité féminine se loge elle-même dans un endroit particulier du corps, les organes génitaux, et en particulier le clitoris. Autrement dit, la chirurgie réparatrice est une chirurgie qui a pour visée normative de féminiser les femmes excisées. C'est une chirurgie féminisante, au même titre, pourrait-on arguer, que les chirurgies correctrices sur les enfants qui naissent avec des organes génitaux ambigus. Et là, je vais... Saïda Barkat m'a demandé to shift to English, but I think one of the lessons from the presentation by Dr. Noor is to emphasize the fact that women, cut women, or women with the FGC, are already women, right? Prior or independently from any surgical repair. And this is especially important precisely to develop a holistic approach to women's health. And what matters is the question of the inequalities in healthcare. Inequalities in healthcare is the major issue. And she also emphasized the need to move away from a genital-centered and only FGM, medical attention towards migrant women. Est-ce que j'ai encore 2 minutes ou bien une? Juste une des choses que je voulais dire, c'est que Dr. Noor, tout à l'heure, vous a présenté le changement de guidelines de l'Académie américaine de pédiatrie en 2010. Alors, juste pour résumer de nouveau, c'est qu'en gros, par rapport aux guidelines de 98, l'Académie américaine de pédiatrie a proposé de faire une entaille clitoridienne comme compromis, comme solution de moindre mal, pour éviter justement que les enfants soit excisé à l'étranger. Comme elle l'a dit, il y a eu tout un tollé, un lever de bouclier, et l'Académie s'est rétractée en réaffirmant l'opposition à toute female genital cutting. Alors, une des choses qui est intéressante, si on regarde les recommandations de 98, c'est qu'il y a déjà ce débat sur la question, ou en fait sur le fait que les médecins se trouvent parfois confrontés à des demandes de personnes pour performer ce genre de pratique-là. Et une chose qui est extrêmement intéressante, c'est d'abord ils disent, attention, si les médecins font ça, ils risquent de participer à une pratique sociale qui est criminalisée aux États-Unis elles-mêmes, à une pratique sociale qui est condamnée, mais en même temps, ils nous disent, ce n'est pas clair si ces médecins seraient condamnés par la loi américaine. Parce que cette loi, qui est votée par le Congrès américain en 96, qui interdit les female genital mutilations, à l'exception notable des chirurgies génitales qui sont faites par des médecins patentés. Et donc là, c'est juste, je voulais juste vous dire que la continuité qui est revendiquée du point de vue technique entre les chirurgies réparatrices des FGM et des chirurgies correctives des organes génitaux, et en même temps l'opposition entre FGM et correction génitale chez nous, c'est une des conditions de possibilité de la chirurgie dite réparatrice, avec pour effet de consolider et de naturaliser l'idée que les chirurgies correctives ne sont pas mutilantes, une idée qui est controversée depuis plus de 2 décennies, y compris dans la communauté médicale. Or, ce genre de chirurgies controversées sont aussi pratiquées par des médecins du Nord dans le cadre de missions chirurgicales en Afrique, y compris dans des pays où les filles sont excisées. Mes remarques visaient simplement à montrer que si on traite de manière symétrique, ces deux pratiques et qu'on ne prend pas pour argent comptant d'emblée qu'il y a une différence de nature entre d'un côté une mutilation et puis de l'autre côté une correction génitale, eh bien la chirurgie génitale peut être redéfinie, c'est une proposition, comme un régime global, de production de la féminité et de la masculinité, en occultant pour une part aussi, et ça c'est quelque chose qui est apparu aussi dans les discussions, c'est au fond la question de la sexothérapie dans un article de Yasmine Abdulkadir, et c'est déjà revenu, dans le cas de la sexothérapie, si les patientes, on offre aux patientes une thérapie sexuelle, eh bien on se rend compte en fait que la chirurgie est un choix secondaire, ce n'est pas le premier choix. Alors de nouveau, c'est pas mon but, le but de mes remarques, c'était pas de critiquer cette chirurgie, ni même, c'est pas du tout d'être polémique par rapport à ces questions-là. Par contre, d'expliciter un certain nombre de normes tacites qui travaillent l'offre médicale.
On l'a bien compris, merci.
J'ai 4 petites choses à ajouter si vous me laissez le temps. La première chose, j'ai été assez interpellé dans ce qui a été dit ce matin et par la question saoudienne. Quel résultat par type ? Alors, est-ce qu'il y a des résultats pour le 1A, le 1B, le 2, le 3 ? Et ça, je trouve que c'est extrêmement réducteur. Si on classe les demandes, les résultats par type, c'est que je pense qu'on n'a rien compris à une victime d'excision. Et comme le dit très bien l'équipe du Kremlin-Bicêtre, que je rejoins totalement là-dessus, qu'on soit 1A, 1B ou 2, on a été victime d'un crime, on a été victime d'une agression et on a des séquelles traumatiques qui peuvent être considérables et des séquelles psychologiques qui sont tout à fait considérables. Et dans cette très grande expérience, maintenant j'ai opéré 4600 cas depuis 25 ans, on s'aperçoit qu'il y a des types... Alors je rejoins tout à fait la condamnation absolue des formes minimales, parce que dans ces formes minimales, vous avez des suppressions totales de la sexualité féminine. Et inversement, dans certains types 3, comme on peut voir, eh bien, on peut avoir des conservations totales de la sensibilité clitoridienne. Il n'y a pas du tout de parallélisme anatomo-clinique. Il faut revenir sur un principe fondateur de tout notre combat qui est ici. On ne doit pas toucher au sexe féminin. Il n'y a pas de petite excision, et ça, il ne faut jamais se départir de ça. Ça, c'est un principe fondateur de tout notre combat. La deuxième chose, c'est que oui, on a fait 650 pièces d'anatomopathologie, c'est-à-dire qu'on a tout découpé notre petite fibrose pour voir ce qui se passait, puis on a arrêté parce que 650 fois, c'était la même réponse. En fait, dans une excision, et c'est pour ça, alors ça les réponses à nos amis anglais, pourquoi ça se répare ? C'est parce que les troncs nerveux, les troncs neurovasculaires, principaux ne sont jamais touchés, même dans les formes dites graves, ce qui ne veut rien dire. Et dans les 650 pièces d'anatomopathologie, on voit dans toute la fibrose que vous avez les dernières terminaisons nerveuses qui sont dans une fibrose, cette fibrose qui englobe, qui encapuchonne le reste vivant du gland clitoridien, interdit tout passage de l'influx nerveux. Par contre, quand vous les avez enlevés, les toutes premières couches que vous découvrez, c'est du tissu vivant avec toutes les terminaisons nerveuses normal. Donc c'est parfaitement réparable, il n'y a pas du tout de miracle, il suffit d'essayer de bien le reconstituer. La troisième chose, c'est la question sur la duplication des centres. Eh ben, on n'a pas attendu, puisqu'effectivement, en 2012, c'était nous au Sénégal. Et on a donc, à Saint-Germain-en-Laye, formé entièrement l'équipe du 93 de Saint-Denis. Je salue sa digne représentante. Et ils ont un centre qui a été entièrement formé dans toutes ses composantes. Concernant, et ça c'est beaucoup plus sérieux, le futur des centres, je voudrais revenir un petit peu sur ce que veut dire holistique. Tout le monde parle de prise en charge holistique et je pense que c'est absolument fondamental. Tout à fait d'accord avec tout le monde. Une femme victime d'excision, c'est une femme victime de plein de choses. Et ce qu'on a fait à Saint-Germain, puisqu'on a créé un centre de référence qu'on a imaginé depuis 4 ans, qui est opérationnel depuis maintenant un peu plus d'un an, qui s'appelle l'Institut en santé génésique, on a simplement considéré qu'une femme victime d'excision, c'était comme une femme victime de n'importe quel type de violence. Et on mélange les femmes victimes de violence, viol, violence au travail, avec les femmes victimes d'excision. Et ça change tout, parce qu'on s'aperçoit qu'une femme victime d'excision, comme une femme victime de violence, ça a besoin de tout, d'un accompagnement sexologique, psychologique, mais aussi juridique, mais aussi sociales, hein, parce qu'elles sont complètement décalées. Et nous avons beaucoup l'expérience de ces femmes qui sont en fin de droit chez nous et qui n'ont droit à rien, même pas à la sécurité sociale, même pas à la CMU, même pas à l'AME. Et c'est un vrai problème. Et ne pas tenir compte de ce problème, c'est pas bien. Donc il faut tenir compte de tous ces problèmes. Et donc maintenant, on les suit avec cette pluridisciplinarité élargie au juridique et au social. Et on a fait quelque chose d'important, c'est qu'on prend en charge les hommes. Et dans plus de la moitié des 120 femmes maintenant qu'on suit, on prend en charge les partenaires, les maris. Et c'est une nouveauté essentielle. Essentielle, et je peux vous garantir que, contrairement à ce que vous pouvez penser, ils attendent que ça. Et ça renforce de façon absolument considérable la prise en charge. Et bien, c'est un des nouveaux points de progrès qu'on apporte, cette nouvelle façon de voir l'holistique. Je vous remercie.
Pierre, merci. Trois commentaires.
Donc Isabelle Gillette-Faye, sociologue et directrice par ailleurs du GAMS. On a dans la salle un certain nombre d'unités de réparation chirurgicale, effectivement. Mais pour avoir accompagné au niveau du GAMS la création d'un certain nombre d'unités, si, pour repartir de l'étude que Saïda a représentée sur 2006-2008, moi, là où je m'interroge sincèrement sur le plan méthodologique, c'est qu'au niveau du GAMS, on reçoit à peu près 1500 personnes par an. Sur ces 1500 personnes qu'on accompagne, une grande partie vient pour des questionnements autour de la chirurgie réparatrice. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi, si on cherche à savoir exactement ce qu'il en est en termes d'accompagnement, de suivi, de prise en charge, et là on est même, j'ai envie de dire, dans l'avant, c'est-à-dire avant même d'aller dans l'unité de chirurgie réparatrice, déjà les questions qui se posent, l'importance qu'il peut y avoir de discuter avec ces femmes. Enfin, moi je sais que dans la salle il y a l'unité Champagne-Ardenne par exemple qui accompagne, il y a l'unité de Lyon qui accompagne aussi, enfin voilà, toute l'unité. Merci. Aussi, voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi j'avoue, alors j'ai pas lu bien sûr la totalité du texte, mais la méthodologie qui m'est présentée là, moi, m'interroge, me pose question.
Merci.
Une toute petite question, puisque je viens d'apprendre que quelquefois ça va plus mal, je crois que c'est vous qui disiez ça, comme le docteur Foldes n'a jamais, à mon sens, dit ça, pourquoi est-ce que ça va plus mal, quelquefois après l'opération, est-ce que c'est au niveau physiologique ou au niveau psychologique? Et vous, docteur Foldes, est-ce que vous avez eu des cas où ça va plus mal ou pas?
Merci. Un petit commentaire. Je suis le professeur Serigne Maguégué. Je suis urologue à Dakar. Je salue au passage Pierre Foldes et vraiment rends hommage pour le grand travail qu'il a commencé à faire et dont il est, à mon avis, le grand pionnier. Je ne vais pas venir sur ça. Je vais intervenir demain et je vais un peu parler de ça. Mais je suis un peu intrigué et vraiment un peu perturbé par le fait qu'on est amené dans le débat sur les mutilations génitales, les anomalies de la différenciation sexuelle. Je crois que le premier problème, les mutilations sont déjà suffisamment complexes. Si on doit y ramener, je parle plutôt de l'intervention de Mme Cynthia Krauss, we're going to talk about it later when we get out. Because the sexual differential disorders are another thing, another topic. I'm a urologist, and I do the surgery. I'm going to have a workshop in April from 19 to 26, and I hold it every year at the same period of time, and we operate over 100 young men, young kids, girls or boys. It's another thing.
Ok, thanks.
Je pense qu'il ne faudrait pas, à mon avis,
votre propos est clair. Merci de l'avoir exprimé.
Il faut le laisser de côté.